Voilà, on commence, on est en retard, comme d'habitude, un peu plus même que d'habitude. Et on est aujourd'hui Yud-Tet qui se lève, d'accord ? Et le jour de l'an de la Chassidoute, Rosh Hashanah de la Chassidoute, on a fait hier une très belle Hidvadout, avec 3 heures de cours et différents rabbanim. C'est déjà sur le net pour ceux qui veulent regarder ce qui s'est passé hier soir ici. Et on est donc le 16 décembre aussi, et on continue le Tzemar Tzedek à la page Kuf Lamed Aleph 261, Derech Mitzvotecha, Shoresh Mitzvot Atfila, et on commence le chapitre 29, Kaf Tet, et on y va. Alors on se rappelle bien sûr ce qu'on a dit hier, où on fait semblant, et on continue. On se rappelle, alors tant mieux. Ach Aïnian. Et donc, pour mieux comprendre, le fameux Maharal de Prague, qui était donc Rabbi Yehuda Livai Lévi, fils de Betzalel Miprague. Vous savez que Der Agav, le Maharal de Prague, bien que c'est un paradoxe absolument incroyable, parce qu'il est très peu ramené dans les œuvres de Chassidut, et pourtant le Maharal de Prague est véritablement la lumière inspiratrice des grands maîtres de la Chassidut, en particulier du Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidut. Les histoires racontent que le Baal Shem Tov avait toujours avec lui, comme un livre de chevet, les livres du Maharal de Prague, et que le Maharal de Prague véritablement a été la source inspiratrice de tout le mouvement chassidique. On le voit ici, la preuve, c'est qu'il rapporte, on l'a pas encore lu, mais il rapporte donc les enseignements du Maharal de Prague. Et donc il faut redonner à ce maître-là son importance, surtout qu'aujourd'hui on est Rosh Hashanah de la Chassidut, donc Mina Shamaim, et de manière tout à fait providentielle, donc on parle du Maharal de Prague, qui, comme on vient de l'expliquer, est l'une des racines fondamentales de la Chassidut. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Donc, Rabo Shel Tosfot Yom Tov, c'était donc le maître du Tosfot Yom Tov. Tosfot Yom Tov était donc un grand maître, lui aussi, qui était l'élève du Maharal de Prague. Et Be'agdamat Sifro Gvurat Hashem, il a écrit le Maharal de Prague, comme on le sait, de très nombreux ouvrages, dont l'un des plus célèbres s'appelle Gvurat Hashem, la puissance de Dieu. Et là-bas, qu'est-ce que fait le Maharal de Prague dans ce livre-là ? Il sigue al derer Rambam, il objecte, il s'oppose à ce que dit le Rambam. Rappelons-nous qu'on a expliqué pendant les derniers cours que le Rambam avait dit que le monde, ou plutôt les mondes et Dieu, fusionnent au niveau de ce qu'on appelle le Olam Hatzilut. Dans le Olam Hatzilut, il y a une sorte de fusion, d'unité totale entre Dieu et ses mondes. Et on avait expliqué bien sûr qu'il ne s'agit pas de l'essence de Dieu qui fusionne avec les mondes, parce que ça c'est absolument impossible et intolérable. L'essence de Dieu étant complètement au-dessus de toute notion même de monde, et donc il s'agit de l'aspect du divin contracté après le fameux Tzimtzum, car nous savons que Dieu s'est contracté afin de permettre l'apparition et l'existence des mondes, mais au niveau de cette contraction du divin, effectivement il y a une place pour les mondes, et c'est à cet endroit-là, au premier instant de la contraction, au moment où apparaît donc le Olam Hatzilut, qu'à ce niveau-là, on trouve encore une unité parfaite entre Dieu et ses mondes. Ça, c'est ce qu'avait donc dit le Rambam Maïmonide. Mais le Maharal de Prague s'oppose à cette approche, et regardons ce qu'il dit. Donc, il est massig à l'air Rambam, il s'oppose à ce que dit le Rambam, mais Mashekatouv, dans ce que le Rambam avait dit, comme je viens de l'expliquer, ou ayodea, ve ou adea, qu'il y a une fusion totale. Ve arbe la shiva le'em, et il, là-bas dans son livre, Gvurat Hashem, il s'étend pour donc contredire le Rambam. Ve zele shono. Et voilà donc une partie de ce qu'il dit. Ils disent que Sheatzmuto Sechel Mufshat, on va d'abord lire sans véritablement commenter, Ils disent donc que l'essence de Dieu est une intelligence moufchat, c'est-à-dire une intelligence, comment je pourrais traduire, imperceptible, une intelligence, mais pour nous elle est moufchat, elle est déshabillée, ça veut dire elle est au-dessus de tout habillement par notre logique. Je ne vais pas traduire mot à mot parce que c'est extrêmement, extrêmement fastidieux et compliqué dans le texte, mais globalement, le Maharal donc rapporte l'avis du Rambam avant de le contredire, et il paraphrase le Rambam comme pour expliquer que Dieu, donc comme on l'a dit, s'unit à sa création, la création s'unit à Dieu, et il y aurait donc une sorte de fusion entre les deux. Et on continue. Iné, achar kol elu advarim asher amru adavar batel u mevutal. Et regardez donc maintenant, je reprends le texte lui-même, regardez avec quelle force le Maharal s'attaque au Rambam. N'oublions pas que c'est quelque chose qui en soi est extrêmement, extrêmement rare et étonnant, parce que le Rambam est ce qu'on appelle un Rishon, le Maharal est un Acharon, avec tout le respect qu'on doit au Maharal de Prague, mais il a vécu longtemps après Maïmonide, après le Rambam, et on sait très bien dans notre tradition que les maîtres venant après, à plus forte raison longtemps après, ne peuvent pas, on pourrait dire, détruire, ne peuvent pas remettre en cause ce qui a été énoncé par les maîtres qui ont vécu longtemps avant, selon le principe connu que plus on remonte dans le temps, et plus le Am Israël a produit des maîtres d'une dimension inimaginable, et donc automatiquement les maîtres qui viennent après ont le statut d'élèves par rapport à ses maîtres, et encore après, élèves d'élèves, et donc il est clair que l'élève de l'élève ne peut pas remettre en cause ce que le maître du maître va dire. Et donc la différence qu'il y a entre le Rambam et le Maharal, c'est plusieurs générations. Le Maharal est l'élève de l'élève des élèves du Rambam, et donc comment peut-il s'attaquer au Rambam, pas méchamment bien sûr, mais à ses idées, comme on va le voir ici. Regardez la phrase qu'il utilise. Il dit Kol elu advarim asher amru, tout ce qui a été dit, adavar batel ou mevutal, c'est nul et non advenu. Ça veut dire, il ne dit pas je comprends pas, je ne suis pas d'accord, on pourrait dire que, etc. Il dit batel ou mevutal. Il refuse catégoriquement l'approche du Rambam. Il faut savoir, j'ouvre une parenthèse qui est extrêmement importante. Il faut savoir qu'avec toute la grandeur inimaginable du Rambam, qui est peut-être le maître incontesté de la Torah de ces 2000 dernières années, comme on le sait, 90% du Shulchan Arour est fondé sur les enseignements du Rambam. Le Rambam est véritablement, on pourrait dire, dans l'exil de Edom, dans ce dernier exil, la lumière inspiratrice qui couvre et recouvre toute la Torah. On ne peut rien faire sans Maïmonide, sans le Rambam, dans tous les domaines du judaïsme. Mais dans le domaine de la pensée juive, il n'a pas eu de bol. Tout le monde lui est tombé dessus. Et c'est-à-dire tous ses contemporains qui étaient eux aussi de très 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 grands maîtres. Et on voit quand même encore à l'époque du Maharal de Prague, longtemps encore après, lorsqu'il s'agit des enseignements du Rambam concernant pas vraiment la loi, parce que dans le domaine de la loi il fait autorité et tout le monde tremble devant lui, mais dès que le Rambam se permet d'exprimer des idées qui ne sont pas de la loi pure, ce qu'on pourrait appeler plutôt de la pensée juive, à ce moment-là, paf, paf, on lui tombe dessus, on ne le laisse pas parler. Pas vraiment du moussard non plus, plutôt de la compréhension profonde du monde. Non, pas le moussard. Le moussard, c'est comment je dois me comporter moi. Non, pas dans ce domaine-là non plus. Mais plutôt des réflexions plutôt philosophiques sur la compréhension du monde. Comme ici, par exemple, quand le Rambam dit que Dieu fusionne avec son monde, et c'est pas du moussard. Ça n'indique rien par rapport à mon comportement toujours. C'est plutôt un enseignement sur des notions extrêmement profondes. Et donc, dès que le Rambam touche un petit peu à ce genre de notions, comme il l'a fait dans son fameux livre « Le guide des égarés », on sait que le guide des égarés a soulevé une polémique, une critique inimaginable parmi ses contemporains qui étaient des géants eux aussi, et longtemps encore après. Et donc le Rambam est toujours un petit peu resté sur la touche et, par rapport au monde juif plus traditionnel, plus classique, dès qu'il s'agissait, on pourrait dire, de pensée juive très philosophique, comme on va voir au niveau du Rambam. Alors, je veux juste souligner un petit peu que, en vérité, justement, cette critique, c'est sa grandeur. Comme ça a été expliqué par quantité de maîtres qui ont essayé de comprendre ce qui s'est passé au sujet du Rambam. Parce qu'il y a ici un problème tout à fait incompréhensible. Si le Rambam s'est imposé comme étant l'autorité absolue et incontournable en matière de halakha, en matière de loi, c'est absolument impossible que le même homme soit à ce point critiquable dès qu'il dit quelque chose d'autre que de la loi. On sait très bien que la Torah est une, elle est liée dans sa profondeur et dans son extériorité, et comme l'âme et le corps, est absolument impossible de dire qu'un homme aurait perçu à la perfection l'extériorité de la Torah, et dans l'intériorité de la Torah, il se serait complètement gouré au point que tout le monde lui tombe dessus. C'est quelque chose qui est inconcevable et inacceptable. Si le Rambam est le plus grand de tous dans l'aspect extérieur de la Torah, il est forcément aussi l'un des plus grands, si pas le plus grand, dans l'intériorité. Alors pourquoi tout le monde lui tombe dessus ? Alors, il y a énormément de réponses à ce problème-là et énormément d'approches. L'une des réponses qui est, on pourrait dire, la plus rapportée, la plus juste, tout en étant très simple, est de dire la chose suivante. Tous les maîtres savaient que le Rambam comprenait les choses à un niveau qui était 100% juste et qui, bien sûr, faisait autorité auprès des maîtres d'Israël. Le problème, c'est que le Rambam a choisi pour s'exprimer un langage extrêmement philosophique qui prête à confusion et qui peut être très très mal interprété, parce que le Rambam est peut-être le précurseur de ces très très grands maîtres qui s'est soucié de tous ceux qui s'éloignaient du judaïsme et que pour pouvoir leur transmettre la Torah, il fallait parler leur langage. Et jusqu'au Rambam, ça n'existait pas cette approche-là. Les maîtres d'Israël parlaient le langage de la Torah pur et dur, tu comprends tant mieux, tu comprends pas, tant pis pour toi. Et le Rambam est peut-être un précurseur, entre autres, c'est aujourd'hui 19 qui se lève, comme on l'a dit depuis hier soir, précurseur peut-être aussi du Baal Shem Tov, et c'est pour ça qu'on va voir que la Chassidoute est très 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 fortement accrochée au Rambam, et le Rambam est ce premier grand maître qui a dit, mais attention, ça sert à quoi de parler dans notre langage à nous, d'accord, si le monde ne nous comprend pas. Descendons de notre tour d'ivoire et parlons leur langage. Et comme à l'époque du Rambam, le langage était le langage de la philosophie, le langage de la philosophie grecque, et que c'était une époque où les juifs s'intéressaient énormément à la philosophie et donc s'éloignaient du judaïsme parce qu'il n'y avait pas suffisamment de maîtres qui pouvaient leur répondre selon leur langage, le Rambam a vu que la situation était catastrophique et il a décidé d'utiliser le vêtement de la philosophie exactement de la même manière que Yaakov s'est habillé des vêtements de Esav, et c'est Yaakov qui a ouvert le chemin pour nous montrer qu'il y a des fois où la voix de Yaakov doit sortir de l'intérieur des habits de Esav, et donc il a revêtu les habits de Esav qui sont donc dans son contexte à lui la philosophie grecque, et il a enseigné avec ces habits-là les secrets de la Torah. Mais le problème, c'est que les philosophes juifs qui eux s'écartaient de la Torah le comprenaient et peut-être revenaient à la Torah grâce à ça, parce qu'ils parlaient le même langage qu'eux, mais les maîtres beaucoup plus classiques, c'est eux qui ne le comprenaient plus, et ils ne savaient plus où est l'habit, où est la personne, où est le vrai, où est le faux. Et donc ça a créé un bilboule tel, que finalement les maîtres d'Israël, on pourrait dire d'une certaine manière, se sont un petit peu trompés, comme l'un des plus célèbres d'entre eux, Rabbeinu Yonah, de Gironde, dans le sud de la France, qui était un des plus virulents, on pourrait dire opposants au Rambam, et quand il a compris, après des années de lutte contre le Rambam, quand il a compris l'erreur qu'il avait fait, à quel point le Rambam était vraiment le saint des saints du judaïsme, le Kodesh HaKodashim, il est parti à pied, plusieurs centaines de kilomètres, il est parti à pied, l'histoire raconte, pieds nus, de Gironde jusqu'à où était le Rambam, jusqu'à Cordoue, Tolède, ou je ne sais plus où. Il est parti à pied pour lui demander pardon et pour se jeter à ses genoux et de lui demander pardon pour tout la lutte, tout ce qu'il avait lutté contre lui parce qu'il n'avait pas compris qui il était. Donc les maîtres d'Israël eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils avaient exagéré, qu'ils n'avaient pas pris la peine de vraiment comprendre, et le Rambam a subi finalement ce que subissent tous ceux qui s'occupent des autres, c'est-à-dire d'être souvent incompris par le bastion, on pourrait dire, dur, classique, orthodoxe, qui lui finalement s'enferme, à juste raison du Seigneur, pour pouvoir protéger la Torah, mais s'enferme derrière les murailles, on pourrait dire, du sans compromis, et donc ne comprennent pas ces gens-là, ne comprennent pas ceux qui font un peu une démarche marginale dans le but de sauver les autres et dans le but de rendre la Torah accessible aux autres. Et ce problème, comme on le sait, est vrai jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, et surtout la Chassidut Chabad, va faire véritablement du Rambam sa lumière. Parce que on a vu dans le Rambam finalement le précurseur du Baal Shem Tov. Un maître qui sort de sa tour d'ivoire et qui se met à la portée des autres. Et c'est pour ça que vous savez que même le rabbi a institué l'étude quotidienne du Rambam, etc. Et le Rambam a été complètement réhabilité par la Chassidut. Mais en tous les cas, le Maharal de Prague continue un petit peu dans la lignée de ses maîtres qui font comme s'ils ne voulaient pas comprendre le Rambam et ils lui rentrent dedans. Comme si c'était une chose acquise, tolérée, dès que le Rambam fait de la philosophie, on le descend.
Il attaque la vie alors plutôt que...
Alors, on ne soupçonne pas le Maharal de ne pas avoir compris le Rambam, et donc on préférera dire, car c'est certainement vrai, que le Maharal sait très bien et comprend très bien ce que veut dire le Rambam, mais il lui reproche de le dire d'une manière qui prête à confusion, parce que qu'est-ce que dit le Rambam ? Le Rambam dit, en vérité, Dieu et son monde fusionnent et ne font qu'un. Le Maharal dit, mais c'est de la folie de dire une chose pareille, mais Dieu est complètement au-dessus du monde. Qu'est-ce que le monde a à voir avec Dieu? Parce que entredire ce que le Rambam dit, et puis terminer par ce que vous devinez, que Dieu s'est fait homme, il n'y a qu'un cheveu. Comprenez? Et donc le Maharal a très 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 peur de cette approche de la fusion entre Dieu et le monde, et donc il lui rentre dedans et lui dit c'est inacceptable, le monde n'a rien à voir avec Dieu. Alors on verra justement que le Tzemar Tzedek va expliquer que c'est pas une contradiction, comme on a dit que le Rambam lui parle de l'aspect de Dieu qui s'est contracté et non de l'essence de Dieu, etc. etc. Mais globalement ça va être ça la marloquette entre le Maharal et le Rambam. Oui, monsieur Drey.
Et par rapport au Maharal de Prague, il a dit aussi que Dieu n'est pas ce monde, à ce moment-là. Ça peut dire Dieu n'est pas de ce monde.
Non, entre dire...
Dieu n'a rien à voir avec ce monde.
Mais entre dire que Dieu est présent dans ce monde, qui est, on pourrait dire, le fondement de tout le judaïsme, et dire, comme le Rambam, que Dieu et son monde ne font qu'un, et il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est pas pareil. Si tu dis, d'accord, Monsieur Drey est dans la salle, mais c'est vrai, ça veut pas dire que la salle et Monsieur Drey, c'est la même chose. Donc le Maharal dit au Rambam, que tu dises que Dieu est présent dans le monde, n'importe quel enfant juif le sait, et pour ça on monte sur le bûcher. Mais dire que, parce qu'il est dans le monde et lui c'est la même chose, ça c'est dangereux. C'est ça ce que le Maharal reproche au Rambam. Et le Rambam ne s'est pas contenté de dire que Dieu est dans son monde, il dit clairement, on l'a lu, que le monde et Dieu fusionnent et ne font qu'un. Et ça dérange le Maharal de Prague, à juste titre, parce que dit comme ça, c'est extrêmement dangereux. La preuve, c'est qu'il faut toute la Chassidut pour expliquer qu'est-ce que voulait dire le Rambam, et il ne faut pas vraiment le prendre à la lettre, il ne s'agit pas de l'essence de Dieu, mais uniquement de la contraction de Dieu, qui n'est pas Dieu lui-même. Mais pour l'instant, on revient donc au texte. Et donc, qu'est-ce que dit le Maharal ? Asher Amrou, donc Advarim Asher Amrou, les choses qui ont été dites, Adavar Batel ou Mevutal, c'est nul et non advenu. וזהו כי השכל הוא מיוחד בדבר כמו שאתה אומר, כי עניין השכל הוא ידיעת הדבר כמו שהוא, ואין אל השם יתברך גדר כלל שיוגדר. Alors bon, le langage du Maharal est extrêmement compliqué comme vous le savez, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai sauté 4-5 lignes parce que c'était tout à fait indigeste, et après tout lui rentre dans le Rambam, on peut lui rentrer dedans aussi, et en tous les cas là je vais essayer de traduire, mais c'est un peu moins indigeste. Vezeu ki asechel, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec le Rambam, parce que le sechel dont parle le Rambam, puisque le Rambam dit que Dieu connaît son monde, et en connaissant son monde, il s'unit à son monde. Alors, et donc c'est comme s'il fait un avec son monde par le biais de la connaissance qu'il a du monde. Alors sur ça, il dit qui a sechel ou meyuchad bedavar ke Moshe ata omer ki inyan a sechel ou idiata davar ke Moshe i. Il dit, je comprends ce que dit le Rambam en ce qui concerne une intelligence, on pourrait dire comme la nôtre, qu'à partir du moment où je réfléchis sur une chose, je m'unis à la chose au moment où je réfléchis à elle. C'est vrai, par exemple, lorsque je me concentre sur quelque chose, au moment où je me concentre sur cette chose-là, cette chose existe en moi et moi en elle, et on ne font qu'un. Et j'ai donné l'exemple classique, je ne sais plus dans quel cours, il n'y a pas longtemps, lorsque par exemple je me souviens d'un événement très intense que j'ai vécu, je peux à ce moment-là m'évader, je me revois partir, et je me revois, etc. Et je suis dans l'événement, et l'événement est en moi. La preuve, c'est que comme c'est un événement vécu, donc il est vraiment en moi. Donc ça, on peut comprendre pour un homme, dit le Rambam, dit le Maharal. Ve'en el Hashem yitbarach geder klal sheyugdar. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est absolument impossible de dire une chose pareille, parce que tu ne peux pas dire que Dieu se trouve dans son sechel, que Dieu se trouve dans son intelligence. Parce que l'intelligence dont on parle au niveau de Dieu, ce n'est pas l'essence de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas se trouver là-dedans. Donnons un exemple simple qu'on a déjà ramené des centaines de fois dans les centaines de cours qui précèdent. Il faut comprendre que la différence fondamentale entre tous les attributs divins, tels qu'ils sont chez Dieu et chez nous, la différence est énorme. Au niveau de l'homme, l'intelligence de l'homme et l'homme, c'est pratiquement la même chose. D'accord ? Je pense que je suis ce que je pense, etc. C'est plus ou moins vrai. Chez Dieu, l'intelligence est comme pour nous un ustensile. Un artisan qui tient un marteau dans les mains. Un peintre qui tient un pinceau dans la main. C'est clair que le bon artisan avec un bon marteau et le peintre avec un bon pinceau vont faire passer énormément d'eux-mêmes dans l'ustensile. Mais l'ustensile n'est pas du tout eux et eux ne sont pas du tout l'ustensile. Il n'y a aucune identification, aucune fusion possible entre les deux. Lorsque l'artisan a arrêté son travail et laisse le marteau dans sa caisse d'outils, lorsque tu prends le marteau, quelqu'un peut deviner à quoi ressemble son propriétaire. Non, tous les marteaux sont les mêmes et il n'y a aucune identité. Il n'y a rien de l'artisan qui reste dans le marteau. D'accord ? Rien. Pourquoi ? Parce que le marteau et l'artisan appartiennent à des catégories qui ne peuvent en aucun cas révéler l'une sur l'autre. Impossible. Donc il y a une déconnexion totale entre l'outil et son utilisateur. Bien qu'au moment où il travaille, c'est clair qu'il y a une sorte, on pourrait dire, de prolongement de l'intelligence de l'homme dans le marteau, mais le marteau reste un marteau. D'accord ? Alors, c'est exactement ce que le Maharal dit en ce qui concerne Dieu. Dieu n'est pas intelligent tel que nous on le comprend. Dieu est au-dessus de toute notion que l'homme connaît. L'intelligence, les qualités, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il est complètement au-dessus de ça. Il a créé ces qualités qu'on appelle les attributs divins et il s'en sert comme des ustensiles pour créer, diriger son monde et avoir un lien avec nous. Mais l'enfermer dans ses ustensiles, c'est comme si tu voulais enfermer le peintre dans son pinceau. C'est comme si tu disais le peintre et le pinceau fusionnent et ne font qu'un. Tout le monde va te rironner. D'accord.
Le peintre, il peut pas peindre avec une casserole.
Il ne fusionne pas avec son pinceau.
Non, mais
c'est impossible de dire que le pinceau et lui font un. Le pinceau et lui sont des créatures complètement différentes l'une de l'autre. Il n'y a pas de fusion. Restons sur les mots du Rambam. Il n'y a pas de fusion. D'accord. C'est sur ces mots-là que le Maharal s'insurge. Que tu dis ce que vous voulez dire, mais c'est parce que le Rambam dit qu'il a besoin du pinceau pour s'exprimer, que le pinceau est son prolongement. Ça ne dérange pas le Maharal. Tout le monde l'a compris, mais ce n'est pas ce que dit le Rambam. Le Rambam dit ils ne font qu'un. Le pinceau est lui, lui est le pinceau. Ça, c'est faux, dit le Maharal. Tu peux dire dans un homme que l'homme est son intelligence et son intelligence est l'homme. C'est vrai, ce n'est pas faux. Tu peux dire dans un homme que l'homme est ses qualités et ses qualités sont l'homme. C'est vrai. Comment tu vois les qualités d'un homme, tu devines qui est l'homme. Et là, il y a une fusion. Mais il n'y a pas de fusion entre un homme et ses ustensiles. Il n'y a pas de fusion ni même entre un homme et ses habits. Même si l'habit fait plus ou moins le rabbin, quoi qu'il en soit, l'habit n'est pas le rabbin.
Mais est-ce qu'il y a une fusion entre l'homme et Akadosh Baruch Hu?
Comment?
Est-ce qu'il y a une fusion entre l'homme et Akadosh Baruch Hu?
Alors, pour l'instant, disons que c'est ça le point de discussion entre le Rambam et le Maharal. C'est ça le point de discussion. Le Rambam semblerait dire que oui, et le Maharal dit absolument non. Comprenons ce que veut dire fusion, c'est-à-dire c'est la même chose. Le Maharal dit, mais c'est la même chose. Mais tu es fou, tu as perdu la tête, Maïmonide, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est la même chose, Dieu et l'homme, c'est la même chose, c'est de la folie. C'est impossible, vous comprenez? Donc il n'y a pas de fusion possible. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Dieu, son intelligence n'est pas une partie de son essence, mais tout simplement un ustensile qu'il utilise. Et quand il n'en a pas besoin, il le met dans la caisse et il s'en va. Ah, il n'a pas d'intelligence à ce moment-là? Mais non, mais il est complètement au-dessus de toute notion d'intelligence telle que nous on le comprend. Ouais. On ne sait pas comment ça fonctionne Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu. Par rapport à son essence, on n'a pas de mots, on se tait. Lecha dumia te'ila, disait David Ameler. La plus grande louange que je peux t'adresser, disait David à Dieu, c'est de me taire. En ce qui te concerne toi dans ton essence, le silence est ta louange. Parce que quoi qu'on dise, on va dire des bêtises. Alors, lecha dumia Teïla. En ce qui te concerne, toi, Dumia, le silence est une louange. Voilà. Parce que si je vais dire, tu es le plus grand, le plus fort, le plus si, etc., c'est comme si j'avais dit sur un homme, tu es le plus crétin, le plus idiot, le plus nul. Et il faut comprendre que c'est ma mâche, ça. Parce que dire de Dieu, il est le plus grand, le plus intelligent, c'est une insulte. Parce que tu le limites à des définitions qui n'ont rien à voir avec lui.
On le dit, il est quand même éclaté.
On a vu un cours, on a vu des cours, on a vu des semaines sur ça.
C'est par rapport à nous.
C'est comme si on disait, les instruments que tu utilises pour diriger le monde sont... Rachum, Vechanoun, etc. On avait des pages et des pages, on a étudié. Comment un juif doit comprendre tu es Rachum, d'accord? C'est comme si tu dis d'un artisan, d'accord? Pour pouvoir peindre ma maison, vous avez besoin d'un pinceau, d'une peinture, d'un pot, d'une échelle, etc. C'est exactement ce qu'on dit. C'est pas que tu es une échelle, tu es un pinceau, tu es une peinture. Mais tu me diriges avec un pinceau, avec une peinture et avec une échelle. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et la différence est énorme et fondamentale. On avait expliqué à l'occasion que c'est ce qui évitait, d'accord, tous les dérapages fous des religions, par exemple de l'amour, qui disent Dieu est amour, Dieu est titatatatata, et puis quand on en arrive à une catastrophe, on dit oui, mais alors c'est pas Dieu, c'est le Satan. Parce qu'à vouloir à tout prix enfermer Dieu dans des attributs qui ne lui correspondent pas dans son essence, quand on a un problème, alors on dit oui, mais c'est pas lui, lui il est occupé ailleurs ce jour-là, il a laissé le Satan faire ce qu'il a fait.
Vous comprenez ? Même avec Spinoza, je dirais. Parce que là, oui, il confond carrément le monde et l'artiste. Spinoza, c'est pour ça qu'il a été excommunié.
Non, absolument. Si on pousse la notion à l'extrême, c'est extrêmement dangereux.
Mais ça ne vient pas du fait qu'on a une vie, il vit dans un monde plutôt musulman que le Maharal de Prague qui vit dans un monde... Oui, il y a aussi ça, il y a une...
Pas musulman, puisque justement, philosophique à l'époque. À l'époque, les musulmans n'étaient pas musulmans. Ils étaient...
Oui. Sophistes,
mais... Oui.
Enfin, il y avait quand même...
Non, mais ils avaient repris, en fait,
le philosophe grec. Aristote, c'était...
Le problème du Rambam, c'était la philosophie grecque. Ça n'a pas été l'islam ou le christianisme tel que nous, on le comprend. Lui, le Rambam, son problème, ça a été la philosophie qui était en train de faire des dégâts énormes à cette époque-là. Un petit peu comme le siècle des Lumières, beaucoup plus tard en Allemagne. comme ce qu'a dit hier le Rav Yitzhak, que justement le Baal Shem Tov est venu à un moment où, justement on était à l'aube de toute la révolution intellectuelle et industrielle, et avec le siècle des Lumières, etc.
Et le mauvais névoquin, il est écrit en arabe.
C'est ça, c'est ce que je voulais vous dire.
L'utilisation de la langue, mais non, même en
racine. Il n'a pas écrit dans la Shema Kodesh, il a écrit.
Il a écrit en arabe, et après il a toujours traduit en.
Oui, je ne sais pas. Dans les détails, je ne sais pas. Mais je ne pense pas, encore une fois, que le Rambam est une réponse à l'islam. C'est une réponse à la philosophie grecque, qui à cette époque-là, avait complètement, on pourrait dire, intégré le monde musulman. Et d'ailleurs, le monde musulman, après, l'a rejeté complètement, après. Après, justement, ça a engendré, après, un extrémisme, une réaction contraire énorme, justement, quand le monde musulman s'est rendu compte qu'il avait failli être intégré complètement par la philosophie grecque. Il y a eu une sorte de l'Avdil de Hanouka chez eux, sauf que chez eux, le Hanouka, il a été total et définitif, quoi. Je veux dire, le monde grec s'est plus jamais approché. Tandis que chez nous, je t'aime un peu beaucoup à la folie, Hanouka par-ci, Hanouka par-là, quoi. Et donc, on continue. Alors, Aval, donc c'est ce qu'il explique. Et donc, Ve'imata Omer, et si tu dis, She'atzmuto Sechel, si tu oses faire rentrer l'intelligence de Dieu dans son essence, d'accord, Arebeze Atanoten lo Geder, alors tu le limites. Si tu oses dire que Dieu est dans le sens de son être essentiel, est intelligent, tu l'insultes. Pourquoi ? Parce que c'est comme si tu dis le peintre et son pinceau. C'est une insulte. Je suis beaucoup plus que mon pinceau. Arebeze atanoten lo geder. Tu lui donnes donc une limite. L'écart est donc en lomar sheuit barar mitiachet bedavar. Tu n'as donc pas le droit de dire que Dieu fait un avec quoi que ce soit. Parce que quelle que soit la chose avec laquelle il va faire un, tu le limites à l'intérieur de cette chose-là, et c'est intolérable, dit le Maharal. Bon, pour nous, c'est intolérable ce que dit le Maharal, parce qu'il semble s'obstiner à ne pas comprendre ce qu'on a tous compris. Comme quoi, le Rambam ne parle pas de l'essence de Dieu, mais parle des attributs de Dieu, des rayonnements de Dieu. Mais encore une fois, on va attribuer au Maharal que son étonnement est parce que justement, il montre qu'il y a un danger dans les propos du Rambam, parce que si quelqu'un n'a pas étudié la Kabbalah, les Maasés. Mettons-nous à la place du Maharal. Je veux dire, il sait très bien que pas tout le monde étudie la Kabbalah, et encore moins la Chassidut, elle n'existait pas à cette époque-là. Donc le Maharal, il voit un texte comme le Rambam, il dit, mais il est fou ce bonhomme. N'importe qui va lire son texte, qu'est-ce qu'il va penser ? Et comme Spinoza, effectivement, que le monde et Dieu, c'est la même chose. Exactement. Et donc, c'est évident que le Maharal est un grand Mekoubal, et que le Maharal, c'est que tous les Mekoubalim ne vont pas mal comprendre le Rambam. Mais le problème, c'est que 99% qui étudient le Rambam ne sont pas des Mekoubalim, mais des Chassidim. Donc ils vont tous se tromper. C'est pour ça que le Maharal descend complètement le Maharal avec le Rambam, avec une force terrible. Et donc il dit, l'écart en l'omar shuit barar mitiachet bedabar, on ne peut donc pas dire comme le Rambam que Dieu s'unit à quoi que ce soit. L'omar alav sheudavarze meyuchad, au point de dire que cette chose-là s'inclut en lui et s'unit à lui. Ou le fichar, ça siklu a omrim shatzmuto sechel. C'est pour ça que sont des idiots, c'est lui qui le dit, pas moi, ceux qui imaginent que l'essence de Dieu peut s'identifier à l'intelligence, ou que l'intelligence peut encore se trouver au niveau de l'essence. Ce sont des idiots. Pourquoi ? Parce que l'intelligence est une fonction, l'essence de Dieu est au-dessus de tout attribut possible. Donc, imaginer un attribut au niveau de l'essence, c'est une idiotie totale. Avalouid borar, parce que lui, Dieu, lotuchal lomar davar miyuchad, tu ne peux rien dire de particulier sur lui. Aval anu omrim shatzmuto avya pshuta. Car nous disons, dit le Maharal, que l'essence de Dieu est une entité, on pourrait dire, comment dire, apshuta, une entité non définissable. Je préfère dire comme ça, non définissable. Mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Lo yugdar. Il suffit de dire un mot de plus. Non définissable. Le agdir, c'est définir. Non définissable. Il est absolument non définissable. Il n'est ni bon, ni gentil, ni méchant, ni intelligent, ni bête. Il est indéfinissable. Bema, complètement. Il est complètement indéfinissable. Ve'en inyan ze sechel. Et il n'y a aucune notion de sechel, d'intelligence, à ce niveau de l'essence. Ve'en anu yodim aviato umauto. Et personne d'entre nous n'a le droit de définir cette essence, car nous ne la connaissons pas. Ve'ulai yomru im en atzmuto sechel ve'geshem chas ve'shalom lomar alav im ken ma'uid barach. Alors, le Maharal devine la question que vous avez, d'une certaine manière, posée tout à l'heure, mais c'est parce qu'on est dans la prière, monsieur le Maharal, pourtant dans la prière on dit Atarachum, etc. Si tu nous dis, Maharal, qu'on ne peut pas définir Dieu, alors c'est quoi Dieu? Alors pourquoi on prie à Dieu? Pourquoi on l'appelle Avinu, notre Père? Pourquoi on l'appelle Malkenu, notre Roi? Puisque tout ça, ça n'existe pas en vérité. C'est exactement la question qu'il demande. Peut-être qu'on va me répondre, im en atzmuto sechel, si nous n'avons pas le droit de réfléchir sur son essence, vegeshem, et qu'il n'y a aucune compréhension concrète de lui. Imken, ma'uid barar, alors c'est quoi Dieu? On ne peut plus prier, on ne peut plus rien faire. Nashuv la'em, alors je leur répondrai à ces gens-là. Dis-moi, est-ce que l'âme qui est en toi, tu peux la comprendre, tu peux la toucher, tu peux la voir, tu peux lui serrer la main? L'âme qui est en toi, tu peux lui donner un emplacement, tu peux dire où elle est, où elle n'est pas, tu peux savoir de comment elle est faite? Non. Kol Sheken ou Kol Sheken, à combien plus forte raison, Boré à Kol, quand il s'agit du maître de tout, chez Enlish Ol Alaf Kushazot, que nous ne sommes pas autorisés à poser ce genre de questions, qui lo yirani Adam Vachai, parce que, comme d'ailleurs Dieu a dit à Moshe, l'homme ne veut pas me voir et vivre. Vechol Advarim Tuchal Ilmod, Mishmota Bakdoshim, Kishem Aetzem, Ba Belashon Havaye, Lilmod Kizeu Atzmuto. Et tout ce que j'explique, Tuchal Lilmod, tu pourras le comprendre, Mishmota Vakdoshim, des noms divins, Kishem Aetzem, parce que le nom qu'on appelle le nom de l'essence, ou Belashon Havaye, Yudke Vavke, c'est Havaye, et ça veut dire quoi? Lilmod Kizeu Atzmuto, pour nous faire comprendre que c'est ça son essence, Aval Sechel Enze Havaya, mais le Sechel n'est pas une Havaya. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, c'est extrêmement profond, le Maharal de Prague, c'est lui-même est un auteur qui, là, paradoxalement, se veut aller contre, on peut dire, l'approche philosophique ou tout ce que vous voulez du Rambam, mais lui-même, il a un signon, il a un discours extrêmement philosophique, extrêmement, on pourrait dire, fastidieux quand on n'est pas habitué. Qu'est-ce qu'il veut dire en français? Il veut dire la chose suivante. Il veut dire, comment s'appelle Dieu? Le nom le plus connu de Dieu, on s'y s'appelle Elohim, Shaddai, etc. Le nom le plus connu, c'est quoi? C'est Havaye. Yudke Vavke, on prononce différemment Havaye. Que signifie ce nom-là? D'accord? L'être. Ou, parce qu'il y a un Yud devant, celui qui donne l'existence. Havaye signifie l'être fondamental, ou, et c'est la même chose, puisqu'il est l'être fondamental, il est celui qui donne l'existence. C'est ça ce que signifie Havaye. Ça vient du mot lehavot, lehitavot, itavot, qui veut dire faire exister. Et donc, le Rambam dit, tu vois bien que quand les maîtres d'Israël ont voulu l'appeler, ils lui ont donné un nom qui justement signifie qu'on ne peut pas l'appeler autrement qu'il existe, Nekuda. Rien de plus. L'existant, à comment, grand, petit, machin, etc. C'est pas ton problème. Il existe. Tout ce qu'on me demande de comprendre. L'existant. Maintenant, dire l'existant, eh ben c'est ne pas vouloir le définir. Comme tu dirais sur quelqu'un, encore c'est même pas vraiment vrai, parce que dès que tu dis l'homme, tu as déjà dit que c'est pas un animal. Mais si tu dis, mais qui c'est lui? C'est un homme. Mais c'est quoi c'est un homme? Il y en a des milliards, c'est un homme. En disant c'est un homme, tu n'as rien dit. Mais attends, il est intelligent, il est juif, il n'est pas juif, il est grand, il est petit, il est blond, il est... Comment qu'il est? Quel âge il a? L'homme. En disant l'homme, tu enlèves toute possibilité de lui donner un visage. Bien que ce n'est pas vraiment le cas d'ici, parce qu'ici c'est encore plus que l'homme, puisqu'en disant l'homme, je sais déjà que ce n'est pas ni une plante ni un animal. Mais par rapport aux humains, lorsque je dis l'homme, d'ailleurs en français quand on parle l'homme, ça fait allusion à la notion et non à une définition particulière. Intelligent, gentil, méchant, grand, petit, âgé, jeune. L'homme. Ça englobe tout. Car tout est inclus dans l'homme. De même, si j'appelle Dieu Havaye, L'existant, ça veut dire qu'il est au-dessus de toute autre définition que celle que les maîtres t'ont donnée. Il existe, nekuda, point. Comment, c'est pas ton problème. Et donc, vechol advarim, donc ça on a expliqué. Et donc, vetavin elo advarim meod, et le Maharal termine en disant, et réfléchis bien, bien, bien sur tout ce que je t'ai dit, car c'est très important, adkan leshono. Voilà. Bon, je veux dire, nous, la difficulté à comprendre, ce que, encore une fois, ce que le Maharal reproche au Rambam, c'est que nous, on a lu déjà le Tzemar Tzedek avant, et qu'on a quelques années de chassidut derrière nous, et donc on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'il lui veut au Rambam. Parce que nous, on a compris le Rambam. Enfin, on l'a compris, on doit l'expliquer plutôt. Mais, encore une fois, la question, il faut la remettre dans le contexte, à l'époque où le Rambam écrit, et à l'époque où ses livres circulent, 99,9% des juifs, même les savants juifs, n'ont pas accès au secret de la Torah, et donc ne connaissent pas du tout les notions de tzimtzoum et de contraction et de tout ce que vous voulez. Et donc, en lisant le Rambam, tu arrives à la conclusion que quoi ? Que le monde et Dieu fusionnent et que l'un et l'autre, c'est la même chose. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun des maîtres sérieux d'Israël ne peut accepter et ne peut tolérer. Et c'est pour ça que le Maharal, comme je dis au début du cours, qui n'est pourtant que l'élève de l'élève de l'élève de l'élève et qui devrait se faire tout petit devant le Rambam, n'hésite pas à se hisser comme un géant et à dire sur le Rambam, tu es un idiot, tu n'as rien compris, tout ce que tu dis est nul et non advenu, c'est ses mots, c'est pas les miens. D'accord ?
Ça prouve la grandeur du Rambam.
Voilà. Et ça prouve la grandeur du Rambam, ça prouve beaucoup de choses, ça prouve que...
Parce qu'à son moment, il avait déjà compris ce qui a été dévoilé bien plus tard.
Oui, mais ça n'enlèvera pas que la critique est en partie justifiée. Il faut comprendre qu'une critique entre gens honnêtes, c'est que chacun a raison dans son contexte et selon son angle de vision.
D'accord. Il n'avait pas tous les éléments pour comprendre.
Non, mais j'ai dit, mais non, même si le Maharal a tous les éléments pour comprendre que le Rambam a compris, ce qu'il reproche au Rambam, c'est que toi et moi, on se comprend. Mais tous les autres, ils ne te comprennent pas.
Parce que le Maharal, il parle de l'essentiel et l'autre des attributs.
De conséquence, parce que la pensée du Maharal, après, elle est devenue philosophie juive, avec Sfaradi HaGaon, et puis il y a un pan de la pensée du Maharal qui a donné naissance à la philosophie juive, c'est-à-dire pas exactement là où ça vient du Maharal. D'accord. Le Maharal, il réagit aussi avec ses siècles de qu'est-ce qui s'est passé après une certaine interprétation du Rambam.
Absolument, il y a eu énormément de déviations qui sont sorties du Rambam, évidemment. Évidemment. Comme d'un autre côté, il y a encore peut-être plus de déviations qui sont sorties de la Kabbalah. Parce que Shabtai Tzvi et Frank et tout le reste, et jusqu'à aujourd'hui, c'est clair que de toute façon, aucune école, comment ? Oui, aucune école n'est à l'abri de toute façon des mauvaises interprétations. Ça c'est clair, absolument clair. Aucun courant, on pourrait dire, de pensée, y compris à l'intérieur du peuple juif, n'a pu échapper à la règle fatale de la déviation et de la déformation. Ça, c'est le risque que prend toute vérité. Un jour, elle sera déformée. Et le problème, donc, c'est de savoir qu'il faut ménager, minimiser au maximum les risques de déviation, que de toute façon, il y aurait une déviation un jour. Mais il faut les minimiser. Et ce qu'on a reproché au Rambam, c'est de ne pas prendre suffisamment de précautions. Et de voir les choses de telle manière que très très vite les gens vont complètement déformer ses propos. Et bon, je veux dire, l'histoire ne sait pas vrai. Enfin, l'histoire a donné plus ou moins raison à tous ceux qui ont critiqué le Rambam. Lui est irréprochable, et ceux qui le critiquaient avec amour et bon sens savaient que lui était irréprochable, mais ce qui est sorti de lui, c'est beaucoup beaucoup de déviations et de déformations du judaïsme, ça c'est clair. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on reprend donc demain le cours.